Voilà, les enfants peuvent descendre s'ils en ont envie. Voilà, les grands restent là, hein. J'aime bien la randonnée. Et des fois, en rando, quand on part tôt le matin, quand on veut faire quelque chose de bien, il faut partir tôt. On a souvent une frontale pour pouvoir éclairer ce qui est devant nous. Avant que, bon, s'il y a la lune, c'est préférable de marcher à la lumière de la lune. Mais et là, ce qu'on vient de chanter, c'est ça. C'est on est éclairé par la parole de Dieu. Hein. Et c'est ce qu'on aimerait faire ce matin. Alors, vous savez que on est dans l'évangile de Matthieu, et sincèrement, j'ai le privilège de me régaler avant vous dans la préparation de ces moments de partage. Sincèrement, je me régale et je vois, ah, c'est magnifique. Hein. Et pour mettre dans sur le site, vous savez que les notes sont accessibles sur le site, il y a les podcasts, il y a les vidéos qui sont des prédications qui sont sur le site de l'Église. Et il faut donner un titre. Alors, des fois, je suis un peu emprunté pour trouver un titre, mais là, j'ai trouvé tout de suite le titre de cette prédication. Ennemi public numéro 1. Et on va le démasquer ensemble ce matin. Donc, on est dans l'évangile de Matthieu, chapitre 9. Et on est dans ces passages qui suivent le fait que Jésus a montré clairement qu'il était pleinement homme et pleinement Dieu. Hein. Et je pense que le Saint-Esprit a conduit ces moments pour qu'on puisse vraiment saisir que celui qui est complètement homme et complètement Dieu a la capacité de mettre fin aux méfaits du péché par le pardon divin. Et c'est la première fois dans l'évangile de Matthieu qu'il est fait mention du péché dans la bouche de Jésus. Intéressant, hein? On est au chapitre 9 et il faudra faire attention qu'on ne se trompe pas d'ennemis et de combats, hein? Et on va voir que dans ces textes, ben, les contemporains de Jésus à ce moment-là, c'était pas si clair que ça. Alors on va essayer d'être attentif, hein? Et dans la lecture, particulièrement dans les premiers versets, des versets 1 à 8, et attention parce que je vous demanderai de me trouver des choses dans ce texte. Donc, il va falloir être attentif. Alors, pour qu'on se remette un petit peu de là où on en était avec le parcours de Jésus, vous vous souvenez, il avait traversé la mer, il y avait eu une très grosse tempête, puis après, il était arrivé à Gadara, là où il a chassé des esprits démoniaques sur deux personnes. Et donc, il va retourner de nouveau là où il avait ses habitudes pendant son ministère à Capernaum. Donc, il va retraverser pour revenir là-bas. Matthieu chapitre 9, versets 1 à 8. Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, cet homme blasphème. Mais Jésus connaissait leurs pensées et dit, pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Quand la foule vit cela, elle fut émerveillée et célébra la gloire de Dieu qui a donné un tel pouvoir aux hommes. Alors cet événement, il est aussi raconté dans l'évangile de Marc, par exemple, avec beaucoup plus de détails. Mais je crois que le Saint-Esprit ici a donné à Matthieu le fait de peut-être moins tout raconter, toute l'histoire, pour qu'on se concentre sur l'essentiel. Et il y a quelques mots-clés dans ce passage. Et souvent, les mots-clés sont souvent répétés. Hein? Alors, on pourra peut-être réafficher le texte là. Et peut-être que vous pouvez me dire quelques mots qui sont répétés dans ces 8 premiers versets qui arrivent comme ça. Quels sont les mots marquants qui sont répétés? Péché, super. Pardonner, génial. Hein? Et un mot un peu bizarre qu'on utilise, qui est donné pour Jésus. Il a le pouvoir, hein, de pardonner les péchés. Hein. Et c'est intéressant quand on lit la Bible, quand il y a des répétitions comme ça, il faut se dire, le Saint-Esprit, qui est un bon pédagogue, s'il nous les répète, c'est que peut-être c'est quelque chose qu'on doit souligner et réfléchir par rapport à ça. Je note aussi deux choses dans ce texte. C'est que d'un côté, certains sont choqués et d'un autre, les autres sont réjouis. Intéressant. Et que c'est la foi du groupe d'amis là qui amène le paralysé qui déclenche en fait toute cette séquence. Tiens, une question de la foi dans ce texte. Vraiment très très intéressant. Alors, Jésus, il n'a pas uniquement fait des guérisons miraculeuses pour montrer sa divinité, pour soulager évidemment les maux des personnes qui étaient malades, condamnées, mais aussi pour montrer sa capacité, son pouvoir, comme on vient de le voir, qu'il avait sur la partie visible, la maladie, mais qu'il peut aussi le faire sur la racine qui est invisible, c'est-à-dire le péché. Et les démonstrations visibles, hein, était une préparation à ce que l'on comprenne qu'il a ce pouvoir sur quelque chose qu'on ne voit pas, mais qui est tout aussi terrible et qui mène sûrement à la mort. Et en fait, excellente pédagogie encore là de Jésus, c'est par un contre-pied qui va faire comprendre à son auditoire qu'il a cette capacité de pardonner les péchés. Et il va faire une guérison qui est impossible avec une paralysie. Donc imaginez, la personne est paralysée depuis déjà un certain temps, et la personne repart avec son brancard, hein, peut-être un petit moyen aussi mnémotechnique pour la personne qui repart en disant, ben voilà, ça c'était couché dessus il y a juste quelques secondes, mais la personne repart d'un instant à l'autre. Alors, physiologiquement, mécaniquement, neurologiquement, c'est incompréhensible, humainement parlant. Moi, quand je me fais quelque chose à une jambe ou comme ça, le physio, ça dure longtemps. Et je crois que je ne suis pas le seul à utiliser les services de physio. Hein. Mais imaginez, Jésus lui dit à cet homme, hop, lève-toi, rentre chez toi, prends ton brancard. Et la personne est repartie. C'est pas normal. C'est divin. Mais il a le pouvoir donc de déclarer ça par sa voix à la personne. Il n'a rien fait de plus de se dire lève-toi et vas-y. Hein? Et de même, quand il dit que tes péchés sont pardonnés, c'est exactement avec la même voix. C'est aussi déclaratif. Hein? C'est la même personne qui dit les deux choses. Et en fait, c'est une bombe que Jésus vient de lâcher, et tellement nouveau, énorme, que les spécialistes de la loi, presque à raison, hein, mathématiquement, logiquement, théologiquement, tous les textes de la loi disent que c'est que Dieu qui peut pardonner les péchés. Donc pour eux, ils voient un homme, ils blasphèment, mais après, il le voit guérir quelque chose que humainement on ne peut pas faire. Et Jésus amène son auditoire à comprendre qu'il a la capacité des deux, parce qu'il est homme et qu'il est Dieu, bien évidemment. Alors, je relis ces versets 5 à 7. Regardez cette démonstration. En effet, qu'est-ce qui est plus facile à dire? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche? Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, Lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. L'homme se leva et rentra chez lui. Jésus montre, il est dans la déclaration, dans la démonstration pour que son auditoire soit informé. Il a ce pouvoir, comme je disais tout à l'heure, sur l'ennemi public numéro un, sur le péché. Et Jésus va montrer dans la suite du texte que combattre et débusquer le péché n'est pas si évident. Alors on va lire la suite du texte et on est confronté à Matthieu, qui est le rédacteur de cet évangile, mais qui est un collecteur d'impôts. Vous savez, les collecteurs d'impôts, c'était ceux qui étaient le plus haïs, ben parce qu'ils profitaient de l'occupant pour lever les impôts. Déjà, on n'aime pas les impôts, mais ils en demandaient plus parce qu'ils s'enrichissaient. Donc, il n'y avait pas pire personne qu'on pouvait détester. Et Matthieu a été touché par Jésus et il est devenu le disciple, l'apôtre que l'on connaît. C'est lui qui nous rédige ici. Donc, là, on a presque... c'est presque... Matthieu qui parle il parle de ce qu'il a vécu. Hein. Mais regardez, c'est hyper intéressant, verset 9. Jésus partit de là. En passant, il vit un homme assis au bureau des taxes qui s'appelait Matthieu. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Donc il laisse tout son commerce juteux, hein, entre parenthèses. Comme Jésus était à table dans la maison, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, pourquoi votre maître mange-t-il avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs? Mais Jésus, qui avait entendu, leur dit, ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs à changer d'attitude. Alors les disciples de Jean-Baptiste, vinrent vers Jésus et dirent, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Jésus leur répondit, les invités à la noce peuvent-ils être tristes tant que le marié est avec eux. Les jours viendront où le marié leur sera enlevé et alors ils jeûneront. Personne ne coud un morceau de tissu neuf sur un vieil habit, car la pièce ajoutée arrache une partie de l'habit et la déchirure devient pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans une vieille outre, sinon les outres éclatent, le vin coule et les outres sont perdues. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves afin que les outres se conservent. Le sujet du péché n'est pas juste un sujet de Bible pour nous, hein, d'une élite qui réfléchit théologiquement, mais le problème du péché est pour ceux qui sont touchés par le péché. Alors, ironiquement, Jésus va dire que c'est une évidence pour ceux que l'on sait atteints, hein, et même ça semble même caricatural, et là c'était un rassemblement où il y avait tous les pires peut-être de la ville que l'on connaissait, eux on sait qu'ils sont pécheurs, hein, et ils ont besoin de soins. Mais il pose la question, mais finalement, est-ce que les bien portants, ils ont besoin de soins? En fait, c'était ironique parce qu'il était en train de dire, mais y a-t-il vraiment des bien portants? Hein? Vous êtes en train de regarder, de stigmatiser ceux qui sont hyper connus pour toutes les arnaques et toutes les embrouilles qu'ils font. Oui, on sait qu'ils sont pécheurs. Mais est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas vraiment pécheurs? Et ironiquement, les pharisiens doivent se poser la question pour eux-mêmes. Hein. Mais Jésus rajoute quelque chose au verset 13 qui est intéressant. Il leur dit, allez apprendre ce que signifie je désire la bonté et non les sacrifices. Je ne suis pas venu appeler des justes, s'il y en avait, hein, mais des pécheurs. Et là, Jésus donne une indication importante, c'est-à-dire que Dieu est plus touché par la bonté, la grâce, que finalement toute la mécanique religieuse. Et cette mécanique, ben, elle est ancrée profondément à la fois chez les pharisiens, tout comme chez les disciples de Jean-Baptiste. Et dans les reproches que l'on a des disciples de Jean-Baptiste, ben, il y avait cette idée, je jeûne, donc je fais quelque chose de bien, Seigneur, tu m'es favorable, etc. Et Jésus est en train de dire, cette mécanique, eh bien, c'est pas ça sur laquelle Dieu s'arrête. Il est touché par la bonté, par la grâce. Mais c'est pas si évident parce que c'était une telle habitude depuis des siècles et des millénaires que Jésus est en train de les confronter à quelque chose, waouh, qui semble tout nouveau. Mais en fait, cette révolution de pensée n'est pas une si grande révolution parce que Dieu, l'Éternel, en avait déjà parlé du temps d'Osée, et là on est dans l'Ancien Testament. Hein? Je désire la bonté et non les sacrifices, c'est un texte qui se trouve dans le livre d'Osée, chapitre 6, verset 6. Hein? Et Jésus est en train de montrer que le temps est venu de vivre enfin ce nouveau regard, cette nouvelle manière de vivre avec Dieu, et de se concentrer sur la résolution du péché plutôt que de se focaliser sur des habitudes religieuses. Alors, il va souligner le fait que c'est le moment qui est venu avec trois courtes paraboles, hein, vous avez vu, le mariage, la joie d'être avec le marié, le vieil habit, hein, on rafistole pas avec un bout de tissu neuf, sinon ben, le tissu il est plus costaud et puis ça fait une déchirure qui est plus grande. Et de même qu'on ne met pas du vin nouveau. Le vin nouveau, à l'époque, il y avait un peu de fermentation, donc ça faisait bouger les outres qui étaient en pot. Et donc, si elles étaient vieilles, elles étaient devenues dures, et elles allaient craquer et tout perdre. Donc, on met le vin nouveau dans une gourde avec de la peau neuve et qui est un petit peu élastique. Et ces trois paraboles comparent le fait que ce nouveau moment de vie avec Dieu que Jésus inaugure ici, hein, se focalise sur la résolution du péché par le pardon que Jésus amène. Hein. Et la priorité, elle est à la joie, hein, d'être avec celui qui l'amène. La joie du moment, ce n'est pas un rafistolage et on met du neuf avec du neuf. En somme, il est en train de dire que les anciennes manières d'interagir avec Dieu, la mécanique religieuse, elle ne se mixe pas avec le pardon. Hein? On ne met pas une dose de loi, de faire, d'ordonnance et le pardon de Jésus. Le pardon de Jésus, c'est le moment, c'est la grâce, c'est le moment où il arrive et c'est un moment de réjouissance. Hein? Et c'est le moment de l'histoire où on se concentre sur ce péché, sur cet ennemi, le péché, hein, évident effectivement chez certains, mais de toute façon présent en chacun. Et la réponse à ce moment-là, ce moment particulier de l'histoire, c'est la foi. Et c'est ce qui a déclenché tout ce chapitre. Vous vous souvenez? Verset 2. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. C'est la foi qui déclenche tout ce texte. La foi est la réponse au fait que Jésus est là pour pardonner les péchés. Alors, qu'est-ce qui est plus facile? La foi pour le pardon des péchés ou la foi pour la guérison? Et on a besoin. Jésus va montrer que, de nouveau avec des guérisons, que la réponse au fait qu'il est là pour le pardon des péchés, notre réponse, c'est la foi. Alors il va le faire de nouveau avec des guérisons impossibles, où on va pouvoir noter dans ces trois événements que c'est la foi qui est au cœur, qui est la réponse qu'il faut donner. Regardez verset 18. Donc il est en train de faire un enseignement, hein, un peu comme nous là, tout d'un coup. Puis tout d'un coup, quelqu'un arrive Il dit, ma fille est morte, tu pourrais venir la ressusciter? Bon, je serais peut-être un peu embarrassé, hein. Mais cette personne, et il était en train d'enseigner, il faut s'imaginer la scène, il est en train de parler de théologie, de choses, de trucs comme ça, du pardon des péchés, puis t'as quelqu'un qui arrive, hein, regardez. Tandis qu'il leur adressait ces paroles, un chef arriva, se prosterna devant lui et dit, ma fille est morte il y a un instant, mais viens, pose ta main sur elle et elle vivra. Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. C'est alors qu'une femme qui souffrait d'hémorragie depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord de son vêtement, car elle se disait, si je peux seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Jésus se retourna et dit en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a sauvée. Et cette femme fut guérie dès ce moment. Alors, lorsque Jésus fut arrivé à la maison du chef, il vit les joueurs de flûte et la foule bruyante. C'était déjà la cérémonie funéraire, on pourrait dire. Il leur dit, retirez-vous, car la jeune fille n'est pas morte, mais elle dort. Et il se moquait de lui. Quand la foule lui était renvoyée, il entra, prit la main de la jeune fille, et la jeune fille se leva. Cette nouvelle se propagea dans toute la région. Quand Jésus partit de là, il fut suivi par deux aveugles qui criaient « Aie pitié de nous, fils de David !» Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent et de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je puisse faire cela ?»« Oui, Seigneur, lui répondirent-ils. Alors il toucha leurs yeux en disant « Soyez traités conformément à votre foi. » Et leurs yeux s'ouvrirent. Jésus leur recommanda avec sévérité, faites bien attention que personne ne le sache. Mais à peine sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Comme il s'en allait, on amena à Jésus un démoniaque muet. Il chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule disait, émerveillée, on n'a jamais rien vu de pareil en Israël. Mais les pharisiens disaient, ah, c'est par le prince des démons qu'il chasse les démons. Alors, petite parenthèse, des fois, il y a un hold-up sur ces versets. Hein. Des personnes, des fois, promettent la guérison au nom de Dieu. Et quand elle n'arrive pas, elle se défausse sur les personnes qui étaient malades ou qui avaient besoin de guérison en leur disant oui, mais en fait, tu n'as pas été guéri parce que tu manques de foi. Hein. Et ils prennent ces versets à l'appui. Mais le sujet principal de ce texte, c'est que ces personnes, Matthieu nous le met avec l'aide du Saint-Esprit, c'est pour souligner la foi de ces personnes qui sont venues à Jésus et qui avait le pouvoir de les guérir. Et juste avant, Jésus souligne que c'est par le même pouvoir qu'il peut pardonner les péchés. Et la réponse est la foi et la joie aussi de ces événements-là. Et je ne sais pas, si on reprenait ces trois événements, on pourrait dire, qu'est-ce qui est plus facile à dire, tes péchés te sont pardonnés, ou à une fille morte de revenir à la vie? Ou un peu plus loin, qu'est-ce qui est plus facile à dire, tes péchés te sont pardonnés, ou à une femme qui est sans solution médicale depuis 12 ans, d'être guérie instantanément? Hein? Et vous avez vu la réponse de Jésus par rapport à cette dame, ta foi t'a sauvée. C'est parce qu'elle a cru qu'en Jésus, il y avait la solution. Elle est allée vers lui. Et c'est exactement la même chose ici avec les aveugles. Les aveugles savaient que la solution est en Jésus. Ils ont tout fait pour aller au-devant de Jésus, hein, pour avoir ici aussi la solution. C'est la foi qui compte, peu importe la manière de faire. Et d'ailleurs, vous voyez là, que ce soit le père qui soit venu, que ce soit la dame qui est venue discrètement avec beaucoup de discrétion, de pudeur, ou que ce soit les aveugles qui ont crié, la manière, peu importe, mais ces gens ont cru qu'il y avait la solution de guérison en Jésus. Et Jésus montre, oui, je suis capable de guérir, mais je suis capable aussi de pardonner. Qu'est-ce qui est plus facile, sauver de la mort, de la maladie, de l'handicap, de la possession, ou que je pardonne des péchés? La joie est là, à la fois quand il y a eu le paralysé, à la fois quand il y a eu le muet qui s'est mis à reparler. Mais c'est intéressant, et notez bien, ça, des fois il y a des petits détails comme ça qui nous montrent que le texte fait un ensemble un peu. Au début, ceux qui connaissaient bien la loi, ils disaient, oh, Jésus, en disant qu'il pardonne les péchés, il blasphémerait pas un petit peu. Et puis là, à la fin, quand ils disent que c'est Jésus, c'est par le pouvoir, c'est par les démons qui chassent les démons, est-ce qu'ils ne sont pas en train de blasphémer? Finalement, ceux qui blasphèment, ce n'est pas ceux que l'on pensait. Voilà pour le texte de ce matin. Avec quoi je vais repartir? Qu'est-ce que j'apprends de Jésus dans ce texte? Ah, c'est facile ce matin. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Jésus a le pouvoir de pardonner les péchés. Ici, il le fait même pour ces personnes par anticipation, avant, pour ceux qui sont avant le moment de la croix, hein. Et pour avoir accès à ce pardon, pas besoin de processus, de trucs non, élitistes ou religieux. La foi en Jésus avec ses propres mots, mais ce désir du cœur de venir à Jésus. La ferme conviction que c'est en lui qu'il y a la solution. Ça, c'est, je pense, facile à retenir dans ce texte. Qu'est-ce que j'apprends de Jésus? Et qu'est-ce que l'on apprend de nous? C'est qu'on a un problème d'importance, hein, à même hauteur que le handicap, à même hauteur que la mort visible, hein, on est face à un mur infranchissable. On ne peut pas résoudre le handicap, on ne peut pas résoudre la mort, on ne peut pas résoudre les choses, la paralysie, hein. Et il y a exactement la même chose qui est en nous, qui s'appelle le péché. Il y a deux dangers. C'est de croire que le problème du péché, il est chez les autres, parce que moi, je suis quelqu'un de bien. C'est un peu comme ça que voyaient les religieux. Et je pense que des fois, on est un peu, peut-être, on voit plutôt ceux qui sont caricaturales, emblématiques, etc. Et puis nous, finalement, quand même, hein. Le péché est aussi chez moi. La même virulence, la même méchanceté, hein. C'est l'ennemi public à trouver en moi une base arrière pour faire ses méfaits. Et je suis complice avec lui. Je suis un complice consentant de cet ennemi, hein. Les autres aussi, certes, mais moi aussi je suis complice. Et je dois résoudre ce problème et même me défaire du syndrome de Stockholm. Vous savez ce que c'est le syndrome de Stockholm? Il y avait eu un braquage en 73 à Stockholm, dans une banque en Suède. Et pendant ce braquage, les otages ont finalement sympathisé avec les preneurs d'otages et ont même pris leur défense après. Je crois même qu'il y a peut-être en ce moment même un film ou un truc comme ça, une série ou un truc comme ça sur Netflix. Il me semble qu'il est sorti, il me semble avoir vu ça de loin. Mais nous, on est pareil avec le péché. On sait qu'il est néfaste, mais on a une complicité, on cultive un peu, hein. C'est l'ennemi public numéro un. Il n'est pas que chez les autres, il est chez moi, je suis complice et je peux aussi un peu le cultiver. Pourtant, c'est ambigu cette attitude parce qu'on sait que c'est ça qui nous amène sûrement à la mort, hein. Le deuxième danger, c'est de croire que je peux arriver à le dominer. En faisant ceci, en prenant des résolutions, en priant plus, en lisant plus ma Bible. Non, la solution, elle est en Jésus. Uniquement en Jésus. Toutes les espèces de techniques qu'on pourrait se mettre dans notre tête arriveront à des échecs. Et la mort physique et spirituelle. La seule solution, le seul qui puisse faire quelque chose, le seul pardon, est en Jésus. Qu'est-ce que ça peut induire pour nous, un tel texte? Ça semble assez logique, mais c'est si difficile de reconnaître que l'ennemi public, j'en suis le complice, et de demander le pardon de Jésus. Viens à mon secours, comme ceux qui ont crié parce qu'ils étaient aveugles, comme celle qui est venue derrière toucher comme ça, comme le père qui est venu vite, ma fille est morte, mais si tu fais quelque chose, elle va vivre. Et ce texte nous pousse, imaginez, la mort n'a pas son mot à dire sur la vie parce qu'il y a le pardon en Jésus. Qu'est-ce que ça nous pousse à faire? Jésus est ta délivrance. Communiquer que Jésus est ta délivrance. Par Jésus, il peut y avoir le pardon des péchés. Tout à l'heure, on prendra la scène. Waouh, quel beau moment pour dire Seigneur, merci, merci, merci. Le pardon vient de toi. Et tu me le donnes entièrement. Je crois. Et si je dis « je crois que tu es venu pour mon pardon », la scène, et pour se rappeler de ce moment historique dans l'histoire de l'humanité. Alors je vais prier si vous voulez bien. Oh Seigneur, merci, merci, merci pour ce texte. Seigneur, qui nous rappelle quelque chose peut-être que l'on connaît depuis longtemps. Mais Seigneur, qu'est-ce que c'est important? Seigneur, qu'est-ce que l'on serait sans ton pardon? On serait peut-être pire que ces collecteurs d'impôts, ou pas, ou on serait justement des gens, on serait des belles personnes, entre guillemets, mais avec le même pouvoir destructeur, le même orgueil de croire que on vaut quelque chose. Seigneur, merci parce que tu nous pardonnes. Oh Seigneur, vraiment merci. Seigneur, que tu nous donnes de ne pas nous y trouver comme si c'était normal. Mais Seigneur, c'est une grâce de ta part. C'est quelque chose d'aussi grand que de guérir d'un handicap, d'une cécité, d'une mort physique. Seigneur, tu nous redonnes vie. Seigneur, merci pour ton pardon. Et Seigneur, vraiment que cette joie nous habite. Et Seigneur, que tu nous donnes de vouloir aussi la partager. Et Seigneur, on a peut-être en tête l'une ou l'autre personne où on aimerait voir, les revoir marcher, les revoir voir, les revoir revivre, bien sûr, sur le plan spirituel. Et Seigneur, que voyez, tu nous réjouisses de penser à eux, de prier pour eux, que tu nous réjouisses de pouvoir saisir les occasions quand ça se donne, de pouvoir leur dire mais il y a une solution, cette solution c'est Jésus. Seigneur, merci pour ce moment, pour ce texte et Seigneur qu'il continue à nous habiter. Amen.